Europe 1, en balade avec Serge Moiti. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec Serge Moiti que nous partons en balade aujourd'hui, réalisateur de télévision, devenu conseiller audiovisuel de François Mitterrand au Parti Socialiste. C'est lui qui l'a filmé au Panthéon en 1981. Il s'est fait ensuite une spécialité de filmer les coulisses des campagnes électorales. Il a animé pendant 10 ans Riposte, l'émission politique de France 5. Il a écrit des livres. Le dernier, Lettre à Anita, vient de paraître chez Fayard. Serge Moiti nous a donné rendez-vous chez lui, rue du Four.
Frédéric Taddeï, en balade avec Serge Moiti sur Europe 1.
Ouais. Bonjour Serge Moiti.
Salut, ça va?
Vous allez bien?
Oui, vous-même.
Nous sommes donc chez vous.
Oui, à quoi vous le cachez?
Oui. Ah oui. Vous avez eu de la chance quand,
Tenez, entrez.
Quand les communistes sont arrivés au pouvoir en 81, ils vous ont pas collectivisé tout ça.
Bon, salut, ça m'a fait très plaisir. Au revoir, à bientôt. Je vois que ça démarre mal, notre rendez-vous.
Non, je parlais des baquettes de bateau parce qu'il y a le son nombreux.
Eh ben, regardez, il y a même Mao là. Regardez.
Ah oui, vous aviez prévu le coup.
Ah oui, j'ai prévu tous les coups. Mao, c'est le tournage en Chine, ça.
Beaucoup de petites statuettes de Mao.
Oui, j'adore ce genre de truc. Ouais. J'adore ça. Mais ramener ça, c'était compliqué dans ma valise, là.
Ah bon?
Ah ouais, bah c'est lourd, quoi. Et puis je voulais pas casser les trucs.
Moi, j'en ai acheté un seulement. Pourquoi en avoir acheté 24?
Parce que je suis chineur depuis que je suis petit.
Ah oui. Chineur, il y a chinois.
Il y a chinois, et puis il y a tous les dimanches au puce depuis que j'ai 12 ans ou un truc comme ça.
D'où alors les maquettes, les petits paysans des Sables d'Olonne.
Ça c'est magnifique. Ce bateau en allumettes.
Ouais.
Ah oui. Ce carrément. Paquebot en allumettes. Ouais, c'est des toutes petites allumettes.
Ah oui. C'est Jacques Villeray dans le Dîner de cons. Non mais c'était ça.
Non mais c'est beau quoi.
Oui.
Arrêtez de faire le malin. Ah, regardez.
Je n'oserais pas.
Regardez
des,
comme
des
c'est
affiches
beau.
De l'exposition coloniale.
Ouais.
Là c'est Jean Jaurès haranguant les ouvriers.
Exactement.
C'est une image, on dirait une image de livre d'école.
Oui, ça doit être ça d'ailleurs.
Mais ça doit être ça. Grandi au niveau d'un tableau.
Ouais, mais ça doit être ça vraiment. Enfin, je pense. Ouais.
Beaucoup de bateaux, hein.
Ah, j'adore. Eh ben, je suis d'une ville de bord de mer quand même, Tunis.
Tunis, sans doute, oui. Gros bateau.
Comment ça?
Gros bateau.
Oui. Il y a des gros paquebots qui venaient, qui entraient, qui sortaient. Moi, ça me faisait rêver complètement.
Vous en avez pris un jour pour revenir en France?
Ouais. Et c'était pas moins marrant, ça.
Oui. Vous alliez perdre votre père, ce que vous racontez dans votre livre.
Mon père et ma mère.
Ouais. La même année. Comment avez-vous trouvé Paris à l'époque?
Triste. C'était Paris, d'avant Malraux et Ravalement.
Ah oui.
C'était triste, enfin, surtout quand quand vous quittez la Méditerranée. Soleil, machin, type dans la rue qui se marre, tout ça, etc. T'arrives à Paris, en plus, moi, j'étais l'orphelin arrivant à Paris. Donc, je me suis retrouvé en pension, comme ça, etc. Ça n'a pas été génial.
Non.
Vous voulez qu'on s'assoie, qu'on prenne un café?
Continuez de me faire visiter. C'est
ah oui, d'accord, alors venez.
C'est
hein.
Tellement riche comme univers.
Oui, ça, de ce côté-là, oui. Là, c'est ma chambre.
Ah oui, moi, je n'ose pas. Il y a des beaux portraits de femmes.
Oui, parce que c'est notre chambre, à ma femme et à moi.
Ah oui.
C'est la télé. Bon.
Ah oui, vous continuez de la regarder.
Ah, tout le temps.
C'est drôle, ça.
C'est terrible, 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 terrible.
Hein?
J'adore. J'ai passé le week-end entier.
Mais vous la regardez avec l'œil du réalisateur ou l'œil de l'ancien patron de France 3?
Les deux, mon général.
Les deux?
Oui, oui. Non, vraiment, puis ancien patron, pas patron, mais je présentais une émission, même pendant des années.
Riposte. Oui, donc il y a aussi l'œil de l'animateur.
Oui. Mais c'est pas comme ça que je regarde. Je regarde flanqué sur mon lit, entre demi-sommeil et pertinence.
Ah oui, donc vous avez aussi un œil de spectateur.
Ah, la vache, oui.
Ah ouais.
La vache, oui, mais je deviens fou. Je peux rester comme ça. Là, le week-end, je restais presque les 2 jours entiers au lit
télé.
À végéter comme ça, un peu angoissé, comme ça, etc.
Enfin, télé, ça vous désangoisse?
Non, ça m'abrutit. Donc c'est bien. Donc c'est bien. Et puis surtout, les chaînes d'infos continuent, parce que vous regardez 10 fois le même truc.
Ouais.
Enfin bon, là, j'ai un premier bureau. Mais il y a surtout ma petite fille qui est là. Elle n'est pas là aujourd'hui.
C'est Anita.
C'est Anita, oui.
Donc, si les objets. C'est une longue lettre dans ce livre qui vient de paraître.
Oui, les objets d'Anita sont là, cachés un peu, comme ça. Mais quand elle dort là, on sort tout ça, ça fait petit.
Ils ont petit matelas.
Oui. Et c'est un. Là, c'est pas.
C'est une pièce toute en bois.
C'est tout en bois et oriental. Vous voyez, avec des drapés orientaux.
On est dans une tente.
On est dans une tente berbère, ouais. J'aime bien cet endroit. J'y vais plus parce que Anita. Mais sinon, c'est 2 trucs marrants pour moi. Ça, c'est la franc-maçonnerie, début du siècle, au Pakistan ou en Inde.
Oui, vous avez été franc-maçon. Hein.
Vachement. vachement. Et ça, regardez, ça, dans la famille socialiste, c'est le journal de mon père en Tunisie, 3 jours après mon départ, après ma naissance, dans la famille socialiste, etc., notre excellent camarade Serge Moati, c'est son nom à lui, hein, ouais. Je ne l'appelle pas Serge.
Vous appelez Henri avec un Y.
Voilà, Y, oui. À notre ami Serge et à la nouvelle maman, vos nos voeux de plus affectueux compliments, ainsi que nos meilleurs voeux de bonheur pour le futur camarade Henri Moati. Alors là, comment voulez-vous que je trahisse quoi que ce soit?
Oui. Si, vous avez sûrement trahi des tas de fois, mais
non.
En tout cas, vous avez adhéré.
Ah, j'ai vachement adhéré, ouais.
Mais dès 1968, vous racontez.
Hein. Ouais, c'est fio.
Ouais. Ils sont venus, c'est vrai, cette scène. Ils veulent pas vous ouvrir parce qu'il n'y a pas de jeunes ici.
Quand le mec, il ouvre le Judas, comme ça, il me voit, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, mais quoi, je voudrais rentrer, là, c'est fio. Il n'y a pas de jeunes ici. Chac! Il referme la porte comme ça, brutalement. Mais je me suis retrouvé comme un con, cité Malzerbe où c'était à l'époque. Je savais plus quoi faire. Je me sentais piètre. Ouais. Et bien, bon. Et je vois arriver 3 jeunes, enfin, presque aussi jeunes que moi. C'est-à-dire chevènement et 2 copains à lui, et il me voit quasiment en larmes. Il me dit, mais qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que tu as? Je lui dis, ils veulent pas que j'entre, etc. Il me dit, viens, je vais te faire passer. Il m'a fait passer.
Et vous avez adhéré là en 68?
Oui, en 68. Ouais, je dois avoir ma carte quelque part.
Cela dit, reconnaissez Serge Moati, vous avez la larme un peu facile.
Oui. C'est un mélange de conjonctivite et de séfaradisme.
Ouais, dans votre livre, vous n'arrêtez pas de pleurer.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Ouais. Vous pleurez vraiment en écrivant ou...
Ouais.
Vous vous souvenez que vous avez pleuré?
Les deux, en général. Ouais. Non, mais j'aime bien ça. Enfin, je déteste pas pleurer. Et plein de choses m'émeuvent encore quand c'est rétrospectif comme ça. Mais on va en parler, si vous voulez.
Mais j'hésite. On passe toujours des 10 dans cette émission. Je me demande si c'est bien prudent avec vous. J'ai peur qu'à chaque fois, l'alarme...
Non.
Les chansons, ça vous fait pleurer.
Ouais, Aragon. Léo Ferré, Aragon.
On évitera Léo Ferré.
Ouais.
On se retrouve dans un instant avec Serge Moati dans son salon que nous n'avons pas encore vu et qu'on va découvrir.
Frédéric Taddeï, en balade avec Serge Moati sur Europe 1.
Nous sommes donc dans le salon de Serge Moati, rue du Four, où se trouvent 2 de ses amis. Vous allez nous les présenter.
Grands amis. Ouais. Il y a Jean-Martin Consolal qui est là, qui est le plus gros des deux, avec la moustache et tout, qui est un médecin, qui a dirigé la mutualité française. Et qui est, je crois, un de mes meilleurs potes au monde. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il est d'Algérie et moi de Tunisie. Donc ça crée un petit problème. Enfin, c'est pas grave. Et là, tu as Xavier Emmanueli, que j'adore, le fondateur du SAMU, SAMU Social, SAMU Social International, tout ça. C'est un homme magnifique. Je l'appelle comme ça, le Saint Laïc, parce que c'est un homme qui aide les autres et qui est un grand humaniste. Ouais. Voilà. Tac.
Et vous le connaissez comment, Serge Moati? Xavier Emmanueli.
Je l'ai rencontré tout au long de ma vie, enfin tout au long de ma carrière. Et je crois qu'il connaissait bien la problématique d'enfants des rues. Ouais. Il a travaillé à l'UNICEF. Mmh. Et puis on est très amis parce que les circuits se recoupent dans Paris. Étant donné qu'on est un peu du même monde, avec les mêmes interrogations sur l'altérité, on peut dire ça comme ça?
Oui, on peut dire ça comme ça, c'est un peu savant, mais bon, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il a un regard sur les autres, sur les enfants pauvres, les SDF, on a fait tellement de... Il m'a amené, j'ai eu le privilège d'aller avec lui faire des tournées dans les SDF dans la rue, tout ça, etc. Il a le cœur bon et la compassion, enfin, je sais pas comment dire, c'est magnifique d'être avec lui.
Et donc, on s'est entendu aussi plus mystérieusement, métaphysique. Mais on peut peut-être oublier ça.
Non, pourquoi?
Parce que on avait des mêmes interrogations sur notre place dans le monde, sur ce que ça voulait dire, sur les finalités. Et bien que c'est un homme plein d'humour, il a aussi une grande interrogation sur les mystères. Ouais. Et une vraie connaissance aussi des ésotérismes. Voilà.
Ah oui? Occultisme, tout ça?
Non, pas occultisme. C'est plus compliqué que ça. Ça serait plutôt de l'ordre de Jung, c'est des significations psychanalytiques.
Ah oui.
Et c'est là-dessus qu'on se rencontre, je crois.
Oui, puis je crois vraiment, moi, comme toi, je crois, à la transcendance.
Mais psychanalytique?
Non.
Entre autres, c'est un...
Non, spiritualiste aussi, c'est-à-dire que je crois, comme disait Mitterrand, aux forces de l'esprit. Et c'est important, et je sens que dans toute l'action de Xavier, derrière ça, il y a ça. C'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse et nous fait grandir.
Mais tu sais, Serge, c'est assez indicible, ça.
Ouais.
Parce que c'est dans tellement privé qu'on peut le dire que par petits morceaux allusifs.
Oui.
On sait qu'on est de cette même famille-là.
Et avec M. Cohen Solal, qui lui est médecin, les forces de l'esprit, oui. Il est peut-être plus dubitatif, lui.
Non, parce que, si vous voulez, quand on rencontre des malades, quand on rencontre la maladie, on est confronté très vite au mystère de la vie, au mystère de la mort. Donc ça amène à poser des questions. Parler avec un malade, accompagner un malade, l'écouter. Le rôle d'un médecin, c'est connaître les gens, d'abord les comprendre, les deviner et essayer de les accompagner.
Et il y en a qui luttent mieux que d'autres parce qu'ils croient aux forces de l'esprit ?
Je ne suis pas sûr qu'on lutte mieux ou moins bien, mais en tout cas, c'est important de se comprendre et de connaître l'autre. L'intérêt du rôle d'un médecin, c'est de connaître l'autre. Les médecins ne disent jamais à quel point ce que leur malade leur apporte. C'est quand même formidable comme rôle. On vient vous voir parce qu'on souffre, parce qu'on est inquiet. On nous dit « aide-moi, tends-moi la main ». C'est un rôle absolument formidable. C'est un cadeau presque que le malade fait au médecin de lui confier ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire sa santé et sa vie.
C'est-à-dire qu'il lui donne le pouvoir.
Il lui donne un pouvoir formidable.
Quand on parle de pouvoir médical, il est donné par les malades. Hein.
Il est donné par le malade. On se met dans les mains du médecin. Et le rôle pour un médecin, mais Xavier, je pense qu'on a souvent parlé de ça ensemble, il le partage aussi, le rôle du médecin, c'est-à-dire, tu souffres, viens, je t'enlève ton angoisse, je t'enlève ta souffrance. La lourdeur du rôle du médecin, c'est prendre l'angoisse de l'autre. Si vous sortez du cabinet du médecin plus angoissé que vous y êtes entré, il faut changer de médecin. C'est sûr.
Moi, je dis toujours en marrant, quelqu'un qui a une grande crise de colique néphrétique, c'est une des pires douleurs qui soit, parce que ça fait vraiment mal.
Oui, c'est vrai.
Et j'en parle en connaissance de cause, crois-moi. Et il risque pas sa vie, certes, mais il demande ardemment que le plus vite possible un médecin arrive. Et là, quand il arrive avec sa seringue, ça passe instantanément d'ailleurs, quand on est morphine, il est tellement arraché à cette douleur. Je dis toujours qu'il lui lècherait la main, tellement c'est animal de sortir. Alors après, le médecin est chargé de ce pouvoir, quoi. Donc il y a malentendu, mais enfin c'est comme ça. Il faut le mériter, ce pouvoir.
Frédéric Taddeï se balade avec Serge Moiti sur Europe 1.
Vous consultez beaucoup Serge Moiti ?
Je passe ma vie chez lui, là, Jean-Martin. Je suis hypochondriaque totalement depuis que je suis né. Hein. Donc j'ai toutes les maladies du monde.
Le problème, c'est qu'il l'a transmis à ses enfants, oui. Notamment à Félix. Oui. Notamment
ça à s'appelle Félix. Un secret médical.
C'est un comédien, le réalisateur.
C'est un comédien, ouais. Metteur en scène. Et il arrive des semaines où Félix m'envoie, je ne sais pas, des dizaines de SMS, parce que son père lui a transmis cette terrible maladie qui est l'hypochondrie. Je passe mon temps à le rassurer. Et il ne me croit pas toujours. Voilà. Mmh.
Oui, et puis quand il ne l'appelle pas une semaine, Jean-Martin qui m'appelle, qu'est-ce qu'il a Félix ? Il ne m'a pas appelé. C'est quand même extraordinaire. Moi, j'entre dans les pharmacies, il y a mon bus qui clignote à notre bienfaiteur. Ah oui. Non, mais c'est hallucinant. J'adore la fréquentation des pharmacies grâce à Jean-Martin, grâce à ses ordonnances qu'il me fait comme ça.
J'espère que vous ne faites pas rembourser par la Sécurité sociale. Jamais.
Ah non, bon. Les hypochondriaques ont cet honneur-là. Jamais se faire rembourser.
Ce serait abusé, là.
Ah ouais, non, ça, c'est pas sérieux. Pas sérieux.
Merci, Xavier Medioli. Merci, Jean-Martin Cohen-Solal. On va partir en balade avec Serge Moiti. On vous suit. Nous sommes dans la rue du Four.
Là où j'ai toujours rêvé d'habiter. Vraiment.
C'est Serge Moiti qui parle.
Ouais, oui. Pardon.
C'était
le quartier pourquoi. Saint-Germain. Quoi. Je trouvais ça chic, je trouvais ça voilà, c'est extraordinaire. Oui, enfin. Mais, et j'ai trouvé ce truc il y a 25 ans déjà maintenant, que j'habite là. Et alors, c'est devenu la rue des hypochondriaques en plus.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a la plus grande pharmacie de Paris maintenant. Donc pour moi, c'est génial. C'est littéralement génial.
Sur la place Mehdi Ben Barka, à l'angle de la rue Bonaparte, une immense pharmacie.
Tout cet immeuble. Ouais. C'est incroyable. Quoi.
Tout l'immeuble est une pharmacie, c'est dingue.
Ah oui, tout l'immeuble est une pharmacie, c'est formidable. Pour moi, c'est...
Et elle est ouverte jusqu'à 21h en plus.
Oui, c'est formidable. C'est formidable, je suis bouleversé de passer là. Enfin, je voulais qu'on rende hommage.
Europe 1, 11h30, en balade avec Serge Moiti. Frédéric Taddeï.
Vous publiez donc Lettre à Anita chez Fayard. Oui. Anita, c'est votre première petite fille. Vous lui racontez au fond qui vous êtes, c'est ça ?
Oui, c'est un peu une sorte d'héritage amoureux. Je lui raconte d'où elle vient, une partie de là où elle vient. C'est-à-dire mes parents, ma naissance en Tunisie, les Juifs de Tunisie, d'où ils venaient, ces Juifs de Tunisie, il n'y en a presque plus maintenant. Et je lui raconte ça avec, avec tout l'amour dont je suis capable, parce que quand j'ai, c'est la première fois que je pleurais devant un cliché, tu sais, de... échographie.
Ah oui.
On m'a montré ça, je me suis mis à chialer comme une bête et je suis déjà tombé amoureux du cliché et je trouvais qu'elle déjà elle me ressemblait, la pauvre chou. Et donc voilà, on est fous d'elle, ma femme et moi, et on a le cœur qui se dilate, quoi. On est complètement cintré. J'ai, je crois, 1400 photos d'elle sur mon téléphone.
Ah oui, c'est pas là. Ah, c'est, ouais. C'est bizarre d'ailleurs, les enfants d'aujourd'hui seront plus photographiés que Greta Garbo, qui disait pourtant elle-même qu'elle avait été photographiée à mort.
Oui, ben moi, moi j'ai 4 photos de moi, c'est tout. Non, je me photographiais pas beaucoup.
Je me souviens, quand j'étais petit, je pensais à John Kennedy, le fils du président des États-Unis.
Qui était sous
le
bureau.
Je me disais, il a tellement été photographié, ça doit être horrible. Et tous les enfants maintenant ont été photographiés 1000 fois plus.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et puis moi, j'ai pas de photos de mes parents, hein, beaucoup. Hein, j'en ai 2, je crois. C'est pas beaucoup.
Ah ouais.
Donc, ça, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis à faire du cinéma, je crois, pour faire bouger les photos.
Et alors, justement, en lisant votre livre, j'ai réalisé qu'à 12 ans, vous aviez fait le casting des 400 coups.
Ah ouais.
Finalement, c'est Jean-Pierre Léaud qui a été pris, mais.
Oui, comme l'histoire le retient.
Ouais.
Mais il se trouve que ça m'a donné l'occasion d'être ami avec Truffaut jusqu'à sa mort.
Oui, parce que Truffaut vous donne quand même un petit rôle.
Oui, alors vraiment, si on éternue, on ne me voit pas. Hein.
Ouais.
Mais
il vous laissait regarder dans le viseur de la caméra. Hein.
Chaque plan.
Ouais.
Chaque plan. Et il me disait, qu'est-ce que t'en penses, Henri? Je faisais semblant de penser quelque chose. Je disais, ouais c'est pas mal. Enfin, mais...
Vous lui avez dit que vous vouliez être metteur en scène.
Ah, bien sûr. Ouais. Et il me dit, mais quel genre de metteur en scène tu aimes? Enfin, j'ai dit, je me sens très proche. J'avais appris par cœur dans le métro. Je me sens très proche de l'univers de Bergman. Je savais pas du tout qui était Bergman. Il me dit, ah bon? Je dis, ah oui. Ah oui, il me dit, moi, je trouve ça chiant. Ah bon, d'accord, bon. Merde. Alors, je lui dis, oui, c'est vrai, un peu. J'étais déjà démago et pas très courageux. Oui, déjà faillou. Et ensuite, quel film tu as vu récemment? Le procès d'Orson Welles. Il me dit, tu veux dire Orson Welles? Je dis, oui, pardon, Orson Welles. Tout ça, je le raconte dans le bouquin. Hein. Mais c'était affreux parce que j'étais d'une démagogie totale. Et il a été adorable. Et j'ai tout craqué quand il m'a dit « Tes parents sont bien d'accord pour que tu tournes ?» Je n'avais pas osé lui dire que j'étais orphelin. Et là, j'ai craqué. Et il m'a fait venir tout le temps au tournage. Et il a vu tous mes premiers films, il corrigeait mes scénarios. Il disait « T'as mis Travelling avant, là, tu crois pas que ce serait mieux de faire Travelling arrière ?» Oui, François, oui, t'as raison, François. Et oui, ça a duré... Et la fois dernière, quand je l'ai vu, c'était terrible parce que... Il rencontrait d'abord beaucoup de belles actrices, tout ça, donc je voulais absolument être metteur en scène. Je pensais que c'était ça, être metteur en scène. Bon.
Ben lui-même avait dit, le cinéma, c'est faire des jolies choses à des jolies femmes.
Et il l'a fait, mon Dieu. Et ce qui était formidable, il me dit... Non, je lis un article où il dit, je ferais bien un feuilleton pour la télé. J'étais patron de France 3. Alors je l'appelle, je dis, François, tu veux faire un feuilleton, mais tu le fais tout de suite. Enfin, on signe, enfin, bon, etc. Il dit, non, je peux pas. Viens me voir, tu vas comprendre.
Et il était malade.
Il était en train de mourir. Il avait plus de cheveux, il était dans son lit, il bougeait plus, il est mort quelques jours après. Ouais, un type formidable, un grand frère.
Europe 1, en balade avec Serge Moiti, Frédéric Tadei.
Ce passage sur le tournage des 400 coups, ça vous permettra ensuite de faire croire que vous avez été assistant metteur en scène de François
Truffaut.
Oui,
j'ai menti tout le temps.
Mais là, ce qui est plus impressionnant, c'est que vous avez été quand même un peu assistant metteur en scène, mais de quelqu'un d'autre, c'est de Jean Rouche.
Oui, tu parles, je portais sa batterie, quoi.
Oui, mais là, ouais, ça commence à ressembler au boulot d'assistant metteur en scène. Et
oui,
surtout, c'est
batterie,
Jean Rouche, c'est l'inventeur du cinéma vérité, c'est un des plus grands
documentaristes
de l'histoire du cinéma.
Un immense metteur en scène.
Et je suis sûr que quand vous êtes mis à filmer les campagnes électorales...
J'ai beaucoup pensé à lui.
Forcément.
J'ai beaucoup pensé à lui. C'est lui qui a, comme vous avez dit, qui avait inventé le principe de... Enfin, ce n'était pas un principe. La petite caméra et la solitude du metteur en scène documentariste par rapport à ce qu'il filme. Il dansait en même temps que les possédés. Il était d'une souplesse extraordinaire, ingénieur des travaux publics. Hein. Il ne savait pas qu'il inventait tout ça, lui. Il était là par amour de l'Afrique et moi aussi. Donc j'avais 17 ans, coup de bol, je le rencontre au premier jour en Afrique. Je lui fais croire que j'étais assistant de Truffaut. Je fais, ah, oui. Et j'ai fait croire aussi après que j'avais été assistant de Jean Rouch, ce qui est largement faux. Enfin, ça fait rien. Il m'a appris à danser avec la caméra. et à ne surtout pas se faire remarquer trop quand on filme. Enfin, ne pas arrêter les choses, quoi. Au contraire, essayer d'entrer dedans au maximum et aimer les gens qu'on filme. Entrer dans leur histoire et dans leur rêverie. Et ça, c'est magnifique, je trouve. C'est une grande leçon de cinéma que nous a donné Jean.
Après, avec les politiques, ça peut poser des problèmes, mais bon, on en reparlera.
Sûrement un jour.
Et nous arrivons rue Racine avec Serge Moatti. C'est la boutique Hollington qui vous attire jusqu'ici.
Bah oui, et depuis, 50 ans.
Ah oui, à ce point-là, bah oui, ça a été créé quoi, au début des années 70 par Patrick Hollington.
Patrick Hollington, oui, qui hélas vient de nous quitter là. Et qui était un homme magnifique, drôle, élégant, évidemment. Et c'était le lieu de rendez-vous, Hollington, ça a toujours été, Schreiber Hollington d'abord. Le rendez-vous de tous les metteurs en scène, réalisateurs, les grands par rapport à moi, qui étaient tous genre de gauche, gilet, mille poches, tout
oui,
ça.
Voilà, parce qu'il avait inventé les vêtements, il faisait des vêtements à poche, des vêtements de travail, mais ça permettait à des intellectuels ou à des artistes de passer pour des travailleurs manuels, en fait, tout en restant élégant.
Voilà, ouais.
Vous aviez plein de poches, vous pouviez mettre des trucs dans les poches, mais...
Puis ça faisait genre, je suis très intelligent et je me soigne pas.
Et je vous ai vu souvent avec ces vestes à poche, ces gilets à poche.
J'en ai eu beaucoup. Ouais. Patrick Hollington.
Puis les vestes à col Mao aussi, les chemises à col Mao.
Les chemises à col Mao, tu parles. Ça, c'est très beau. Ouais. Rouge comme ça, c'est magnifique. Là, c'est le retoucheur de chez Hollington.
Beaucoup de retouches sur les vêtements de...
Bah oui, moi je grossis, je remaigris. Enfin, c'est un cauchemar. Heureusement qu'il est là, lui.
Et puis vous pouvez le voir travailler de la rue.
On peut guetter ce qu'il fait.
On voit à travers la vitrine, sur sa table.
Ben voilà, on a fait le tour.
On va travailler. Tout ça, c'est...
Investissent l'espace, donnent lieu à l'indicible, à ce qui nous échappe. Elles s'enlisent, se perdent, se posent, interpellent, et puis s'ancrent le temps d'un instant. Ses mains, la résultante d'une recherche presque animale, où l'archaïsme... du rupestre apparaît.
C'est joli, c'est de qui ?
Terre d'ocre traversée par des pans d'un ocre rouge. La recherche agit à mon insu.
C'est une passante avec un joli béret qui nous a lu ça.
Une jolie femme.
Merci.
C'était un plaisir.
Une passante qui s'appelle Monica Gonzalez, artiste peintre.
Monica Gonzalez, artiste peintre.
Voilà, c'était comme ça.
Bonne journée.
C'est curieux.
Ouais, on va écouter Paris, la chanson de Marc Lavoine avec Souad Massi. C'est sur Paris, je pense que ça va vous plaire. Il y a de la musique un peu arabisante d'ailleurs.
Ah, très bien.
Oui, vous la connaissez. Vous
allez sûrement.
Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds. Je bois tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Sois sur tes bancs, je regarde tes monuments. Je trinque à la santé de tes amants. Je laisse couler ta scène sous tes pans. Ta rengaine toujours après la peine.
Je pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie. Est-ce que t'es belle en pleine nuit, yeah. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo. Et je pique. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel. Au moins elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressens le chagrin, ça me fait un mal de chien.
Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé. Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Paris, Paris, t'es nul. Paris, Paris, perdu. Paris, tu m'as laissé
sur ton pavé.
Je me réveille dans tes bras, sur tes quais, y'a de la joie et des loups dans tes bois. Je me glisse dans tes ciné, je me perds. ton quartier, je m'y retrouverai jamais.
Je nage au fil de tes gars et mon regard s'égare. Je vois passer des cafards sur tes bars. Je m'accroche au réverbère, tes pigeons manquent pas d'air. Et moi, de quoi j'ai l'air?
Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé. Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Paris, Paris, tout nu. Paris, Paris, perdu. Paris, tu m'as laissé
sur ton pavé.
C'était Paris, chanté par Swat Massy et Marc Lavoine. On continue notre balade avec Serge Moati, direction Les Deux Magots. Nous sommes Carrefour de l'Odéon avec Serge Moati. Oui, oui. Nous nous dirigeons vers Les Deux Magots. Et alors, tout le monde sait que vous avez été le conseiller audiovisuel de François Mitterrand, qui n'aimait pas beaucoup la télévision, et comme vous étiez socialiste, vous êtes travaillé à l'ORTF. À l'époque, vous aviez réalisé des, ce qu'on appelait des dramatiques, le qui pain noir, le sagouin.
Ah, je l'ai rencontré avant. Non, je l'ai rencontré en 71.
Oui, c'est ça.
Ouais, il venait de prendre le Parti Socialiste ce jour-là, et il devait faire sa première émission de télé, son premier journal télévisé, disons. Ouais. Bon. Et je me souviens qu'il a dit à un de ses adjoints, il n'y a pas quelqu'un dans ce parti de merde qui connaît un peu la télévision. Et le type me montre comme ça. J'avais pas le look, quoi. Et je me souviens d'un Mitterrand allant vers moi, mais comme à reculons. Pas envie, quoi. Il me trouvait pas intéressant, quoi. Et il me dit cette phrase que j'oublierai jamais jusqu'à sa mort. Je connaissais le cinéaste Serge Moati. Je ne connaissais pas le camarade Serge Moati. Alors là, j'ai été épaté et je lui ai promis fidélité jusqu'à ces derniers jours, ce qui a été le cas.
Alors, on sait que vous étiez près de lui pendant le débat en mai 81 face à Giscard d'Estaing, que vous étiez son représentant. Il y avait eu les toutes sortes d'accords qui avaient été faits pour que...
27 règles nous avions édictées, Badinter et moi. Voilà.
Ouais. Et alors, ce qu'on sait, moi, c'est le coup du dossier que vous racontez dans Lettre à Anita. Oui. On voit que vous vous confessez, là.
Oui.
Le coup du dossier.
C'est pas bien de ma part.
Vous faites croire à l'équipe adverse que François Mitterrand, à un moment, va montrer un dossier.
Il y a quelque chose d'important dans ce dossier et il risque de le montrer. Alors, mon camarade, enfin, je veux dire, mon équivalent du côté de Giscard, dit attends, on peut se parler, là. Ça concerne les diamants de Bokassa. Ah, je fais ta gueule, chut. T'en parles pas, etc. Bon, j'ai surjoué. La surprise terrifiante. Et Mitterrand, il est venu avec un dossier vide sur le plateau.
Mais il était donc complice, Mitterrand, dans cette petite manipulation.
Il trouvait mon truc nullissime. Et simplement, il tapotait de temps en temps le dossier. et j'avais demandé qu'on fasse des gros plans sur sa main. Stock, il tapotait. Et d'après ce que j'ai compris, Giscard croyait vraiment qu'il y avait un truc dedans. Et qu'il allait sortir ça face aux caméras que j'avais prévu pour.
Ben c'était la réponse du berger à la bergère. 7 ans avant, Giscard lui avait fait le coup de Clermont-Ferrand.
Oui.
Oui, allusion à la ville dont Anne Pinjot était
issue.
Était issue.
On ne savait pas tout ça, donc on ne comprenait pas bien. Bonjour. Voilà. On ne comprenait pas bien, il parlait de ça. Mais. Parce que c'était un secret bien bien gardé.
Ce que vous racontez, c'est que juste avant le débat, Mitterrand est dans sa loge avec vous. Il vous parle de Brigitte Bardot.
Ah oui.
Il est tout guiré.
Grand étonnement. Avant que ça commence, quoi. Ouais. Et il me dit, qu'est-ce que vous pensez de Brigitte Bardot? D'un ton très sérieux, comme ça. Ah, j'ai dit, mais j'aime beaucoup. Et je me disais, mais il dérape complètement, quoi. Avant d'entrer
en scène. 80, en plus.
Oui, avant d'entrer en scène, il me parle de Brigitte Bardot. Et il commence à dire des répliques. Tu aimes mes fesses. Tu aimes mes seins. Tu aimes... Et moi, j'ai donné la réplique, en plus, parce que c'est un film que j'adore.
Et c'était le mépris de Jean-Luc Godard.
Et là, les types, les conseillers, tout ça, entrent dans l'un, et ils entendent Mitterrand et moi, tu aimes mes fesses, t'aimes mes seins. Enfin, ils se sont dit, ça y est, ils sont devenus tarlouses ou fous. Bon, etc. Donc, on a eu un fou rire nerveux, etc. Et puis, avant, il y avait quand même eu un truc magnifique, ou après, je sais plus, une chose magnifique. J'étais très ému, et lui, il était devant son miroir, là, comme ça. Et moi, j'étais derrière lui, vous savez, comme un metteur en scène avec un acteur. Et je ne sais pas quoi lui dire. Mes opinions politiques, ils s'en tapent. Ce que je pense des relations internationales, encore plus. Enfin bref, Je ne savais pas quoi lui dire. Et brusquement, je sens une sorte de... Je ne sais pas, de pesanteur dans mon cœur. Et je lui dis, vous savez, mes parents auraient été si fiers de me voir près de vous. Il dit, pourquoi ? Je dis, ils sont morts, tous les deux. Ils sont enterrés au cimetière juif de Tunis. Et mon père était chef du Parti Socialiste en Tunisie. Et il aurait été si fier de me voir avec le premier président socialiste de France. Et je vois dans la glace, je vous jure que c'est vrai, hein, Frédéric, je vous jure que c'est vrai, il commence à avoir les yeux qui se mouillent de larmes. Alors je dis, qu'est-ce que j'ai fait, mon sang de bonsoir, qu'est-ce que j'ai fait ? Il me dit, continuez Serge, continuez. Et il me dit ça. Moi, mes parents sont enterrés au cimetière de Jarnac et je sens leur présence ici. Moi aussi, je dis, c'est vrai, je sentais leur présence. Il me dit, vous croyez aux forces de l'esprit ? Oh oui, j'y crois, monsieur. Oui, oh oui, j'y crois.
Et c'est resté. L'expression qu'il réemploiera.
Lors de ses derniers vœux.
Avec vous d'ailleurs,
oui,
encore une
moi,
fois,
oui, puisque j'allais là pour tous les. J'allais à l'Élysée pour tous ses vœux du 31 décembre.
Toujours et... le conseiller audiovisuel.
Oui, oui. Ouais, ouais, j'étais pas politique, hein, j'étais juste l'homme des caméras, quoi. Ouais. Et là, ça a été bouleversant. C'était peu de temps avant qu'il meure. Hein. Ouais. Et donc, je le trouve allongé dans son lit, souffrant. Il me dit, c'est comme si j'avais la Gestapo en moi, tellement il avait mal, le pauvre. Et il me dit, aidez-moi à me lever, je l'aide à se lever. Il était en petit Marcel, je me souviens. Il avait tellement maigri, il était... j'avais jamais vu d'homme vieux, quasiment dénudé. Et il me dit, on va répéter, travaillons, travaillons. Et il me dit le texte, moi je le tiens des deux mains, comme ça.
Lui, vous le soutenez,
ouais. Ah oui, il fallait pas qu'il tombe, hein. Et il me met le texte dans la bouche, parce qu'il lit sur ma bouche, comme ça, avec le papier. Et donc, et il me dit, l'année prochaine, enfin, il lit, hein, l'année prochaine, je ne vous quitterai pas, je ne serai pas là pour vous présenter mes voeux, ça sera mon successeur, mais je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Pof ! Moi, j'avais envie de pleurer, et je me suis dit, il ne faut pas que je pleure. Et après, il s'est habillé, je l'ai habillé. Une mauvaise chemise qui n'allait pas avec une mauvaise cravate, enfin bon. Et on descend par l'escalier de l'Elysée, par l'ascenseur de l'Elysée, et il s'éloigne dans un long couloir, comme ça. Et chaque fois, il y a des huissiers qui disent « Monsieur le Président, Monsieur le Président !» Et il se redresse. Au revoir, capitaine courageux. C'est la dernière fois que je le vois vivant.
Ah oui, vous l'avez jamais revu après ?
Non, je l'ai revu avenue Frédéric Leplay, mais il n'allait pas bien du tout, et puis il est mort. Hélas.
On arrive au Domago, on se retrouve à l'intérieur.
Frédéric Taddeï, en balade avec Serge Moiti sur Europe 1.
Nous sommes attablés au Domago, place Saint-Germain-des-Prés, avec Serge Moiti. C'était le rendez-vous des surréalistes autour d'André Breton, ouais. Puis des existentialistes autour de Sartre et Beauvoir. Ouais. Vous n'avez fait partie ni des uns ni des autres.
Non, hélas, non.
Vous étiez socialiste, vous, c'est tout.
Oui, non, mais il y avait surtout, c'était l'époque de Truffaut, tout ça, etc. Et il se voyait ici avec d'autres jeunes de la Nouvelle Vague à l'époque, hein, bon, etc. Il m'avait dit, viens, passe nous voir dans l'après-midi, parce que je sortais le jeudi après-midi de la pension. Passe nous voir un jeudi, là. Je devais lui remettre un scénario auquel moi-même je comprenais rien, que j'avais écrit. Et j'ai pas osé entrer. Parce qu'il y avait que des gens que je croyais connus, célèbres, philosophes, machin, etc. J'ai pas osé entrer. Je suis resté 3 heures devant dans le froid. J'étais trop, trop petit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très con comme histoire, mais.
Je me mets à votre place, j'aurais sans doute fait pareil.
Non, j'ai pas osé entrer. Donc, alors, je passe chaud devant les deux magots, en frétillant légèrement, en me disant, bon, ils vont me virer, c'est pas possible. Ils vont découvrir.
Ouais. C'est avec en animant Riposte à la fin des années 90 que vous allez devenir plus célèbre auprès du grand public, parce que c'était quand même une émission politique qui passait le dimanche en fin d'après-midi sur France 5.
C'était génial.
C'était une émission de débat politique.
J'ai pas dit l'émission était géniale. C'était génial de faire ça, hein, je voulais dire.
C'était génial d'être connu.
Ah oui, j'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai beaucoup aimé le côté vaincre l'angoisse du dimanche soir.
Ah oui.
Parce que j'ai toujours détesté ça. Je devais être rentré à la pension à 6h de l'après-midi. Donc c'était le moment où commençait Riposte après. Donc c'était génial. Et puis après, on prenait un verre avec tous les invités qui s'étaient frités pendant toute l'émission. Et là, qui se retrouvaient en se marrant après. C'était vraiment formidable.
Ouais. C'est là que vous avez connu tous ces politiques
tous.
Que vous filmiez également pendant leur campagne électorale.
Ça a duré 10 ans. Ouais. Ça a duré 10 ans. Et j'ai vu défiler tous les politiques de la... Comme en plus, je faisais des documentaires en coulisses la plupart du temps, je les connaissais bien tous et j'ai adoré cette période.
Mais c'est bizarre, parce que connaissant votre passé socialiste, vous étiez l'homme qui avait filmé François Mitterrand au Panthéon, qui avait failli perdre d'ailleurs, hein, puisqu'à un moment il disparaît,
il a
disparu, ne le voit plus.
Ravi à l'affection des siens. Voilà, c'est bien les socialistes, ça. Ils élisent un président, il disparaît. Voilà. Et nous, on croyait presque à un coup d'État fasciste.
Non, c'était sérieusement.
Sérieusement. Je pensais que c'était après Allende. C'était après Allende.
Ouais. Ceux qui regardaient la télévision ce jour-là, on voyait Mitterrand rentrer dans le Panthéon,
disparaître,
déposer des fleurs voilà. sur les tombes.
Et moi, j'avais mis des jeunes socialistes un peu partout qui lui faisaient des signes à gauche.
Oui, parce que c'est un dédale. Hein,
c'est terrible. Et lui, il n'était jamais venu. Donc c'était un drame. Et brusquement, il marche le long d'un long couloir, comme ça, etc. Il devait venir vers la caméra et tourner à gauche. À gauche, évidemment. Et plus de Mitterrand. Alors là, il y avait Defferre, nouveau ministre de l'Intérieur derrière moi. Il m'a dit, retrouve-le. Et j'avais pensé, dis donc, de le retrouver, oui. Et toutes les caméras.
Sauf que vous étiez dans le cas régie, vous.
Oui, bien sûr. Oui. Et toutes les caméras me disaient, on le voit pas, on le voit pas. Il balayait.
Qu'est-ce
comme
que
ça.
Vous voulez boire, Serge?
Un crème bien blanc.
Un crème? Un crème, une limonade pour moi, s'il vous plaît?
Et donc, plus de Mitterrand. Le cauchemar. Je me voyais promis un goulag social-démocrate. Je suis foutu. Et donc, vraiment, il aimait pas. Defferre plaisantait pas du tout.
Et qu'est-ce qui s'était passé? Vous avez élucidé.
Il avait mal vu le geste d'un de ces jeunes cachés derrière des trucs, là. Et brusquement, le revoilà, avec toujours son pas solennel, comme ça, qui sort. Il retrouve ce peuple de gauche qu'il aimait tant, qui ne s'est rendu compte de rien. Plus de président. Plus de président le premier jour de son investiture. Donc, tout ça est dû à ma maladresse extraordinaire. Et en plus, après, il sort. Il sort, vous savez, devant le Panthéon. Qu'est-ce qui se passe? Il pleut. Et il y a Barenboim qui jouait l'hymne à la joie, etc.
Daniel Barenboim.
Oui, Daniel Barenboim. Et il y a le même Defferre qui dit, arrête-le, c'est trop long. Va arrêter de... Va raccourcir et arrêter Barenboim, tu vois. J'envoie un mec qui lui fait un signe, genre, fais vite, fais vite. Et l'autre lui fait, ch'touc.
Avec un doigt comme ça, ouais, un doigt d'honneur.
Ah oui, enfin, une sorte de doigt d'honneur, en tout cas. Et donc, c'était impossible à arrêter. Et la pluie tombe sur Mitterrand, qui est inondée. C'est la Schkommune socialiste, ça s'appelle depuis.
Ce qui est arrivé plus tard pour François Hollande, mais oui, on avait oublié que c'était arrivé à Mitterrand.
Il y a une tradition comme ça, de la pluie socialiste.
Alors, ce qui m'étonne, c'est quand vous animez Riposte, tous les politiques viennent. C'est l'époque où vous faites des grands moulinets avec les bras, que vous êtes un peu capotin toujours. Avec vos grosses lunettes que vous avez toujours.
Oui, des lunettes comme Carlos.
Mais comment se fait-il qu'il... Ça ne les dérange pas que vous ayez été si militant, vous-même.
Non, parce que vous avez été d'un bord engagé. Alors, je vous jure, quand je travaille. Je ne suis pas du tout comme ça. Quand je fais des interviews, quand je fais des trucs comme ça, etc., quand je fais mon travail, je ne suis pas du tout comme ça. Je ne pense pas du tout que je suis un type qui ne vote pas comme eux. Ou jamais, jamais.
Non, mais que vous ne le pensiez pas, vous, je comprends, mais qu'eux ne le pensent pas non plus.
Ben non, non, au contraire, ils voulaient tous venir. Non, non, ouais. Non, non, c'est bête de dire ça. Non, pardon.
Non.
Pas bête, Frédéric.
Non, mais comprenez, aujourd'hui, ça ne passerait pas. De même que l'époque où François Mitterrand était interviewé par les femmes de ses ministres, ça ne passerait plus aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Et je pense que vous, ça ne passerait plus non plus.
Ben, je sais pas, en tout cas, c'est passé.
C'est passé.
Et la preuve, à un moment, ça m'a valu pas mal d'emmerdes, puisque je faisais beaucoup de Le Pen à un moment.
Ouais.
Et je pensais qu'il était la moindre des choses de filmer Le Pen pour le faire entendre, parce que le parti n'était pas interdit, donc il convenait de le recevoir, etc. Ça me paraissait normal en démocratie. Et mes copains ne comprenaient pas du tout ce que je faisais avec Le Pen.
Comment se fait-il que vous vous retrouvez le soir du 21 avril
2002,
Jean-Marie Le Pen qualifié pour le second tour, vous êtes avec lui?
Mais parce que je n'arrêtais pas de le filmer depuis longtemps. Donc j'étais très proche, quoi. Enfin, pas très proche politiquement, je m'empresse de le dire, mais très proche humainement, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Mmh. On peut tout à fait se sentir bien avec quelqu'un et détester ses opinions. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis la seule caméra à être autorisée à filmer ce qui se passe quand il apprend le résultat du deuxième tour. Vous vous rendez compte, la seule caméra. Et là, j'ai compris qu'il n'était pas content du tout d'être au second tour.
Ah non, il savait que ça allait être humiliant.
Alors, Moiti, où est ma division de la Reich, hein? Il est où mon Premier ministre? Il est où mon ministre de l'Intérieur? Enfin, bon.
Parce qu'à l'époque, on disait que si Le Pen entrait à l'Élysée, il y aurait les SS.
Oui.
Comme on avait dit que si Mitterrand était élu, les chars soviétiques défileraient sur les Champs-Élysées.
Et il n'y en a pas eu. J'en ai cherché des expériments, il n'y en a pas eu. Et donc voilà, donc j'ai été. J'ai jamais eu de problème pour interviewer qui que ce soit.
Vous savez pourquoi? Parce que je pense que vous n'aimez pas le conflit. C'est pour ça que vous n'êtes pas sectaire. Vous n'aimez pas le conflit. Vous avez envie de vous réconcilier avec tout le monde, au fond.
Mais j'aime pas être fâché, disons.
Ouais.
C'est pas me réconcilier. J'aime pas me fâcher. J'aime écouter les gens. Et j'aime entrer dans leur tête. Ce qui est très étrange, d'ailleurs.
j'aime entrer dans leur tête. C'est-à-dire que je me dis, je me deviens très vite l'autre. C'est
un ça s'appelle l'empathie.
Oui, mais elle est chez moi déchaînée. J'ai l'empathie déchaînée. Et vraiment, je n'ai jamais eu à me dire, voilà un ennemi devant moi. Je veux le faire parler. Mais à un point tel de devenir l'autre qu'à un moment, j'interviewe un type pendant la présidentielle. Pendant la présidentielle, la dernière, en 2007. En 2007, non. Et le mec, il parle. Et j'arrive pas à l'arrêter. Drame. Il y a le type à l'oreillette qui me dit arrête-le, enfin, bon, etc. C'était un candidat. Mais comment tu vas arrêter un mec dont tu sais pas qui c'est?
Vous ne souveniez plus du nom.
Oui.
Mais vous saviez qui c'était.
Dramatique. Non, je me souvenais plus du nom, oui, c'est ça. Et à un moment, il dit Parti Socialiste. C'était François Hollande. Mon Dieu, que je connais par cœur depuis 30 ans.
Non mais ça c'est drôle parce que vous le racontez dans votre livre, vous trompez dans le livre d'ailleurs, vous croyez que c'est pour la campagne présidentielle de 2012, mais en fait non.
Ah non, 2007. Non,
c'est 2007. Mais c'est vrai que tous ceux qui ont fait de la télévision en direct, qui ont animé des émissions, et c'est mon cas, à un moment, on sait plus,
affreux,
on n'arrive plus à trouver le nom de la personne.
Et alors
à qui
Hollande me dit, j'ai compris que tu savais plus qui j'étais. Ouais, n'empêche que je suis allé consulter tous les médecins comme je suis hypochondriaque de Paris.
Mais c'est un trou de mémoire.
Alzheimer, moi je me suis dit c'est Alzheimer, ils m'ont dit c'est pas ça Alzheimer, c'est quand tu te souviens pas ce que tu as fait le matin. Bon, d'accord, heureusement, mais moi j'étais vachement inquiet quand même. Ne pas reconnaître François Hollande, ne plus savoir son nom.
Non mais je vous rassure, ça m'est arrivé aussi, c'est arrivé à tout le monde.
Mais quand je vous vois, je me demande si ça me rassure.
On se retrouve dans un instant avec je sais plus qui.
Oui.
Mais d'abord, on va...
Bah, l'assistant Truffaut de Rouge.
Puisque nous sommes au Demago, écoutons Mouloudji, qui en était un des habitués avec Juliette Gréco autour de Sartre, chanter l'amour, l'amour, l'amour. Ça, vous vous souvenez?
Oui, oui, monsieur.
Europe 1, en balade avec Serge Moiti, Frédéric Taddeï.
L'amour, l'amour, l'amour dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie. Ou souvent une ruine. L'amour, l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour, l'amour, l'amour dont on parle toujours. L'amour met la nuit un bonnet et le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. L'amour, l'amour, c'est parfois même aussi que le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre. À l'amour, à l'amour, à l'amour dont on parle toujours. À l'amour, c'est plus d'une fois un panier vide au bras, l'arc-en-ciel sur deux cœurs. À l'amour, à l'amour, c'est quand je t'aime. À l'amour, c'est quand tu m'aimes, sans me le dire, sans te le dire. À l'amour, l'amour, c'est quand tu m'aimes. L'amour, c'est quand je t'aime, sans te le dire, sans me le dire.
C'était Mouloudji qui chantait l'amour, l'amour, l'amour. À tout de suite, toujours au Demago.
Europe 1, en balade avec Serge Moiti, Frédéric Taddeï.
Il y a beaucoup de monde au Demago, comme d'habitude. Et puis, il y a Serge Moiti qui boit un café au lait.
Oui,
nous sommes en train de nous rappeler sa carrière télévisuelle. Alors, passons sur le fait que vous avez été le patron de France 3.
J'ai adoré.
Votre fait le plus notable, celui que vous rappelez dans ce dernier livre, Lettre à Anita, c'est que vous avez été obligé de rappeler Guy Lux au bout de deux ans après l'avoir viré.
Merci de bien vouloir rappeler ce moment magnifique de ma vie. Magnifique.
Alors, Guy Lux, pour les plus jeunes, c'était le chantre de la télévision populaire, les variétés. C'était un peu synonyme pour la gauche à l'époque qui arrivait au pouvoir de l'abrutissement des masses. Donc, il avait été viré en mai 81, comme
pas
d'autres.
Par moi.
Pas par vous, comme d'autres. Et puis, vous l'avez rappelé.
Ben, j'étais bien. Oui, c'est la seule fois où il y a une intervention directe de François Mitterrand. Il me dit, allons faire quelques pas dans le jardin de l'Élysée, dans le parc de l'Élysée. Il me dit, vous savez Serge, vous avez une grande réputation d'aimer, de privilégier une télévision culturelle, intellectuelle. C'est bien. Alors je me dis, oui, pourquoi il me dit ça? Enfin bon, oui, alors on marche comme ça, l'air grave, vous savez. Donc, vous savez, j'ai jamais dit qu'on avait voté contre Guy Lux en votant Mitterrand. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut me faire là? J'ai dit non, bien sûr. Enfin, rappelez-le, il ne va pas bien. Quoi? Non, rappelez Guy Lux, il ne va pas bien. Un truc incroyable. C'est-à-dire, il avait pris d'abord le côté, vous êtes un télo, ça va, vous êtes sans, au-dessus de tous les machins. D'abord, je ne savais pas que j'étais un télo, donc ça m'a beaucoup troublé et fait plaisir. Enfin, bon. Et du coup, je suis allé le chercher. Il était en province, Guy Lux, dans un hypermarché, un truc comme ça, où il animait.
Ah oui, comme dans Tandem, le film de Lecomte.
J'ai voulu faire un film d'ailleurs là-dessus, moi aussi. Et je lui ai dit, vous savez, je viens de la part de François Mitterrand. Et il ne m'aimait pas, Guy Lux.
Mais il est revenu quand même.
Il est revenu. Il est revenu. Et il est revenu avec succès, en plus. Donc je suis celui qui a fait venir Guy Lux à la télévision.
À l'époque, c'était pas très aimé, pas plus d'ailleurs que Johnny Hallyday, que Joe Dassin, que Claude François, qui étaient ses invités réguliers.
Et puis il y avait le mec qui avait chanté beaucoup l'important, c'est la dose. C'était qui?
Je ne sais pas.
Hortant, c'est la... Hein?
Thierry Leluron.
Oui, c'est Thierry Leluron.
Oui, non, ça c'était mieux.
Non, mais c'était terrible parce que chaque fois qu'il passait sur nos antennes, il faisait l'important, c'est la dose.
Mais ça se trouve, si on voyait ça aujourd'hui, Guy Lux, on trouvait ça plutôt haut de gamme. Hein.
Plutôt haut de gamme, oui, et moi plutôt con. Donc ça va.
L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi.
Après ça, vous allez être l'un des premiers à filmer les coulisses de la politique, et notamment les coulisses des campagnes électorales. Voilà, Depardon l'avait fait, c'est vrai, en 74, mais on n'avait pas vu le film, puisque le film que Raymond Depardon avait fait sur la campagne de Giscard en 74, Giscard n'avait pas voulu qu'on le diffuse avant.
Vous savez pourquoi j'ai commencé à faire ce genre de truc? Parce que quand j'ai quitté France 3, en 86, le personnel m'avait offert une petite caméra. Genre au revoir, merci, etc. Et je me retrouvais au chômage, évidemment, la droite étant revenue aux affaires, je me suis retrouvé au chômage. Et il y a eu les législatives, là, en 86. Ouais. Et j'ai commencé à filmer Fabius, que je connaissais bien, avec cette petite caméra.
Jospin aussi, et puis Philippe Séguin.
Bien sûr, Philippe Séguin. Enfin, j'ai filmé beaucoup, beaucoup. J'ai fait, figurez-vous, 200 documentaires, 200. Ouais. J'ai jamais été un très bon opérateur, mais la petite caméra faisait la blague. C'est-à-dire, j'entrais n'importe où, sans me faire remarquer, avec un sac de sport. Et je tournais, quoi. C'était absolument formidable pour moi comme aventure. Et j'ai fait ça en France, dans tout le monde politique, à gauche, à droite, à l'extrême droite.
Oui, vous avez fait trois campagnes présidentielles. Oui. Vous avez fait la campagne des municipales parisiennes en 2001. Oui. Tibéri, Séguin, Delanoë.
Et de temps en temps, ils m'oubliaient tellement que je tout sautais pour qu'ils se rappellent que j'étais là. Par moments, vous voyez le genre, je poussais le luxe jusqu'à là. Parce que je sais pas, je passais mon temps avec les yeux grands ouverts, comme ça, faire oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et j'étais genre, c'est drôle.
Vous ressembliez aux deux magots, les deux statuettes chinoises qui sont ici dans cet établissement et qui lui donnent son nom un peu. Ils ont l'air comme ça.
Ils ont l'air comme ça, bienveillants et secrets. Et donc c'était vraiment étrange pour moi d'être accepté partout comme ça. Et j'en ai fait 200, vous rendez compte. Et je vais en faire un autre bientôt.
Est-ce qu'ils sont si différents dans les coulisses que ce que l'on voit? Parce que depuis, les Français aiment beaucoup plus les coulisses que... le vrai spectacle, et pas seulement en politique d'ailleurs, tous les domaines, on préfère les coulisses. Oui, comme si dans les coulisses, il se passait quelque chose de vrai qui ne se passe pas quand les projecteurs sont allumés.
Vous ne croyez pas, Frédéric ?
Je ne sais, je comprends bien pourquoi on préfère ça, est-ce que pour autant, ils sont différents ?
Je les préfère en coulisses, quand ils sont entre eux, quand ils se parlent, tout ça, etc.
Que ce qu'ils vous montraient dans Riposte, par exemple, étaient...
On arrivait presque aux coulisses dans Riposte, parce que je créais une ambiance, quoi. Les gens étaient libres, enfin, ils sentaient qu'ils étaient libres, comme dans une conversation de bistrot, vous voyez ? Et donc... mais j'adorais les coulisses, vraiment, c'est-à-dire une autre façon de filmer la politique et une autre façon d'être avec les hommes politiques, et où on a des rapports d'homme à homme vraiment, enfin, et eux d'homme à homme avec leur entourage, quoi. C'était extraordinaire. Mais depuis, ce qu'il y a de grave, c'est que d'abord tout le monde filme avec les téléphones portables, quoi, avec les téléphones, et puis il y a les patrons de la communication partout. Ils te suivent comme un fou, quoi. Alors là, la fois dernière, par exemple, j'ai fait un film qui s'appelait Ma dernière campagne. Pour bien montrer que ça, c'était fini. Je pouvais plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas, alors peut-être que dans les pads où je serai bientôt, je pourrai filmer une dernière fois la politique, on verra.
Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Quand on les a filmés comme ça, il faudrait les filmer dans leur salle de bain. C'est tout ce qui reste.
Oui.
Mais plus on les filme comme ça, vous savez, c'est De Gaulle qui disait on révère peu. Le prestige ne va pas sans mystère car on révère peu ce que l'on connaît trop bien. Il avait tout à fait raison, mais maintenant on les a tellement filmés sous toutes les coutures, nos hommes politiques, qu'on est un peu comme leurs valets de chambre. Ils n'ont plus de secrets pour nous et de ce fait, on ne les admire plus non plus.
Je ne crois pas, non. Je ne crois pas parce qu'il y a des moments où quand on commence à aller plus loin, y compris avec la petite caméra, aller vraiment au cœur, comme vous le faites, vous, hein, en me regardant comme ça, quand vous m'interviewez là, on a plus envie, au contraire, de dire des choses justes et vraies. Vous voyez ? Pas de frimer. Et à ce moment-là, ça devient des êtres humains dont j'entends battre le cœur au-delà de ma caméra. Et comme vous, enfin, pardon, mais vous êtes quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail, ça a l'air con de dire ça, mais enfin, flagorneur ou je sais pas quoi, vous savez bien que non. Et c'est vraiment ça que vous savez faire.
Et c'est possible, même avec des hommes politiques, même quand ils ont des plans de com.
Oui, mais il faut absolument à ce moment-là égarer et dire com. Leur donner des fausses pistes. Leur dire on se retrouve à 6h alors qu'on est là depuis 4h30, vous voyez, etc.
Eh bien, on va laisser passer les infos et on se retrouve avec Serge Moati.
Europe 1, en balade avec Serge Moati. Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Serge Moati, qui publie Lettre à Anita aux éditions Fayard, un livre dédié à sa première petite fille, dans lequel il raconte sa vie. Vous avez toujours aimé raconter votre vie, Serge Moati ?
Oui, c'est un moyen de la dépasser aussi.
De lui donner un sens ?
Oui, un peu. Ça a été tellement difficile à un moment que...
Quand vous étiez enfant ?
Pardon ?
Quand vous étiez enfant ?
Oui, oui. Et ça a été... j'en ai fait une sorte de d'épopée, un peu, je ne sais pas comment dire.
Oui, une légende, on dit.
Oui, une légende, on dit quand on est prétentieux.
Print the legend.
Oui, quand on est prétentieux.
Imprimons la légende plutôt que la réalité.
Mais ça a été des séries de coups de bol et de drames. Mais des coups de bol aussi, hein, qui m'ont forgé, qui m'ont fait plaisir... J'ai appris que les mensonges étaient salvateurs, par exemple. Mais vraiment, quoi, je le sais. Et je conseille ça à ma petite fille. Je ne sais pas comment ses parents vont prendre ça, mais enfin, je dis, vas-y, mens, t'inquiète pas. C'est pas grave. Fais quelque chose, quoi. Invente. Si tu ne sais pas, t'invente, m'avait dit papa avant de mourir. Lui, il n'avait pas inventé, le pauvre, qu'il était un grand résistant et un juif déporté. Mais il est revenu vivant, sinon je ne serais pas là. Mais il est revenu vivant parce qu'on n'a pas su qu'il était juif. Moati, on se disait c'est un nom italien, je sais pas, bon, etc. Les nazis, hein. Un nazi de Basse-Saxe ou de je sais pas quoi, ne devait pas comprendre que Moati, c'était un nom juif de Livourne, Italie. Mais oui, j'aime bien raconter ma vie, j'aime bien laisser des traces parce que j'ai pas beaucoup de traces d'avant, moi.
Frédéric Taddeï se balade avec Serge Moati sur Europe 1.
Est-ce que le fait d'avoir écouté tous ces politiques et aussi quelques intellectuels pendant 10 ans sur le plateau de Riposte, vous expliquer ce qui était en train de se passer, ce qui allait se passer, est-ce que ça vous a aidé à... Ça vous avait permis de mieux comprendre votre époque?
Sûrement, mais en même temps, le sentiment de perte par rapport à ce que j'avais connu, vraiment, enfin, la fin du communisme déjà, j'ai jamais été communiste, hein, j'ai toujours été hostile, mais la fin de la social-démocratie, pour l'instant, m'a littéralement bouleversé. Et je sentais le coup venir parce que c'était vraiment très... presque prévisible. On ne voyait plus de différence droite, gauche, tout ça, ça paraissait désuet. Enfin, pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sentis que ça venait, quoi. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine, moi, ça, tu vois.
Mais c'est très difficile de... Quand on les écoute tous en même temps, ils ne sont pas toujours d'accord. En tout cas, parfois oui, même, ils exagèrent leur désaccord. Et je me souviens d'avoir revu... une émission de Riposte avec François Hollande. À oui. l'époque, je faisais Ce soir ou jamais.
Oui.
Et j'avais été chercher dans les archives. Et j'avais vu une émission Riposte où il venait d'être nommé premier secrétaire oui. du Parti Socialiste. Et il avait face à lui... il y avait Christophe Aiguiton d'Attaque, il y avait Éric Zemmour, il y avait Jean-Michel Apathy. Et à ce moment-là, c'est, en 2002... Évidemment, la grande question, c'est pourquoi Lionel Jospin n'était pas au deuxième tour et tous réfléchissaient là-dessus. Et il y a Aiguiton et Zemmour qui donnent leur version. Et c'est assez bien vu. Et c'est exactement les raisons pour lesquelles... Alors, il y en avait sûrement d'autres pour Jospin, mais les raisons qu'ils donnent sont exactement celles pour lesquelles François Hollande, une fois président de la République, ne pourra pas se représenter.
C'est-à-dire ?
Ben, justement, parce qu'il... Il aura perdu le vote populaire parce qu'on l'accusera d'avoir réduit les services publics, d'avoir flexibilisé le marché du travail, d'avoir promis de renégocier les traités européens, les critères de Maastricht, et puis de ne pas l'avoir fait, etc. Et ils disent que c'est pour toutes ces raisons que Jospin n'a pas gagné. Et ils ne savent pas qu'ils disent aussi à François Hollande que c'est pour toutes ces raisons qu'il ne pourra pas se représenter. Parmi ouais. d'autres, mais ouais. celle-ci. Et moi, quand j'ai revu ça, après, bah, c'est facile parce que... On savait.
Oui, bien sûr.
Mais au moment où vous les écoutiez et où les téléspectateurs les écoutaient, comment savoir que c'était eux qui avaient raison? C'est toujours ça. Quand on anime des débats, au fond, le problème, c'est qui a raison? À qui l'histoire donnera raison?
Oui, on ne se pose pas la question. Enfin, je ne me suis jamais posé la question en faisant les débats.
C'est vrai?
Non. J'adore faire parler, entendre intensément... comprendre ce qu'ils disent.
Sans enfin, se demander à qui l'histoire donnera raison.
Non, à part s'ils disent des grosses boulettes, que connes. Bon, mais sinon, non, j'arrive jamais à dire qui a raison, qui a tort. Enfin, je sais pas. Et puis, je suis pas un grand... comment ils appellent ça ? Politologue.
Oui.
Politologue.
Europe 1, en balade avec Serge Moiti. Frédéric Taddeï.
J'ai vu votre regard s'embuer, c'est parce qu'on arrive devant l'ancien siège du Parti Socialiste.
Ah mon Dieu.
10 rue Solferino.
Il s'est passé tellement de choses. Là, dans ce lieu même, là, qui va devenir un truc de luxe, d'après ce que je comprends. Ils mettent d'ailleurs en pub une adresse mythique. Ah la vache, une adresse mythique. Un lieu historique, une adresse mythique. Eh ben, bah oui.
Alors il faut...
Pour moi, oui.
C'était le siège du Parti Socialiste de 1981, hein, je crois, jusqu'à
oui, bien
2018.
Sûr. Avant 81, oui.
Ils ont été obligés de le vendre après la,
oui.
la raclée,
après, là, oui.
la raclée électorale de,
oui, bien sûr.
Qui a suivi l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron. Vous avez passé beaucoup de temps dans ce...
Beaucoup.
À la fois en tant que militant socialiste, que
tout
conseiller
ça.
Audiovisuel.
De Mitterrand, oui. Et... Beaucoup de moments là, au 10, au fond de la cour, à gauche, tu montes, il y avait le bureau de Mitterrand. Et au 10 bis ou au 8 bis là-bas, la petite porte qui est là, c'était l'antenne. Une fois qu'il a été élu président, on se réunissait là pour, par exemple, réfléchir à la cérémonie du Panthéon, où on allait, quel caveau fleurir, etc., etc., discussion acharnée, ce que Lang appelait le passage de l'ombre à la lumière, etc., etc. C'était là, dans cette petite porte-là.
On va faire une pause et puis vous allez nous raconter
ouais.
tout ça.
Ouais, ouais.
Nous sommes avec Serge Moati devant le 10 rue de Solferino, l'ancien siège du Parti Socialiste. Aujourd'hui, il y a une grande bâche, enfin une grande plaque avec écrit un lieu historique, une adresse mythique, une réalisation iconique. Ça va être, on ne sait pas quoi, mais ça va être autre chose, ça c'est sûr.
Un truc de luxe.
Voilà. Mais il faut, bon, ça, le 10 avant ça, ça a été autre chose. Hein. Ouais. C'était l'hôtel d'Albert Debreuil, catholique, libéral, monarchiste. Ça a été ensuite un immeuble de la CGST. Ça a été le ministère de l'Information sous Vichy. Vous savez que Philippe Henriot
a été assassiné là.
Ici, oui. Et puis c'est devenu le siège du Parti Socialiste. C'était comment ici le 10 mai 81 ? Vous étiez là, vous ?
Oui, bien sûr, bah oui. Tout était noir de monde là, jusqu'au boulevard Saint-Germain là-bas.
Ouais.
Et un monde en liesse, absolument, enfin, extraordinaire, quoi. Les gens n'y croyaient pas, enfin, jusqu'au dernier moment. Il fallait voir le truc à la télé, quoi, le visage se découvrir, comme ça, pour y croire, hein. C'est fou. C'est fou quand on y pense. Et c'était hallucinant. Nous, on le savait par des trucs un peu comme ça, genre vers 5h30, 6h. Mais tant que c'est pas vu à la télévision, on n'arrive pas à y croire complètement. On passe pour un zozo si on dit ça y est, c'est joué, etc. Moi, je m'étais renseigné aux bonnes sources, genre Fabius, genre tout ça, mais on attendait quand même. Et puis là, quand c'est arrivé, une joie immense. On pensait vraiment que c'était vrai, l'histoire de « on va changer la vie ». Changer la vie, vous vous souvenez du slogan de Mitterrand ? On pensait ça vraiment. Que
c'était ambitieux, comme slogan, oui, c'était ambitieux.
C'était un poème de Rimbaud, surtout. Et le lendemain, on pensait que la vie serait différente. On a été étonné qu'il pleuve le lendemain, par exemple. Quoi ? Il n'a pas arrêté la pluie ? C'était tellement étonnant. Et quoi, les gens sont normaux dans la rue ? Bizarre.
Moi, je me souviens qu'il y avait une impression quand même un peu spéciale. Les gens n'étaient pas tout à fait normaux dans la
non.
rue.
Non, non. Non, non. Le soir, il y a eu une cérémonie place de la Bastille après ça. Et il a plu là aussi.
Mais je pense que c'est pas parce que les gens pensaient que vous alliez changer la vie, c'est parce que. Parce que ça changeait de... Il y avait l'alternance, on ne l'avait pas eu depuis tellement longtemps.
On ne connaissait pas. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là, au pouvoir ? Qu'est-ce que ce truc-là ? Les socialistes au pouvoir ? C'est une blague, c'est vrai ou quoi ? Eh bien oui, ça a été vrai, ça a duré longtemps en plus. Mais ça paraît préhistorique maintenant, presque. Je me souviens des cris de joie dans cette rue, des banderoles, des chants, de cette joie intense dans les rues, qui font que moi, je suis ému chaque fois que je passe là. Je m'étais dit d'ailleurs que j'essaierais de ne pas passer devant la rue de Solferino. Je vous jure, pendant longtemps, je voulais
contourner. En même temps,
contourner.
Ça vous crée à tous une responsabilité terrible. Oui. Un peu même, c'est la même chose quand vous êtes obligé de rappeler Guy Lux quelques années plus tard en tant que patron de FR3 et qu'il y a un technicien qui vous dit « alors c'est ça la télé du changement
».
Parce qu'au fond, voilà, la réalité reprenait ses droits. Il y avait une espèce de...
Oui, on se sent tous responsables. Quand je raconte ça à mes enfants, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Tu es sérieux ? Ils me disent. Mais tu y crois ? Tu y crois toujours ? Et je pense vraiment, sans faire le malin, que oui, j'y crois vachement. Encore. Je ne peux pas trahir, pardon, ça m'émeut. Je ne peux pas trahir, c'est comme l'héritage de mon père. Je ne peux pas le trahir. Je ne sais pas très bien à quoi je crois. Hein. Je ne sais pas. C'est comme avec Dieu. Hein. J'ai des rapports compliqués avec Dieu.
Là aussi, votre père était croyant ?
Non. Non. Non, il était laïque, lui, très. Non, c'est moi, ça. C'est moi, grâce à l'Afrique.
Où je sais, on peut être laïque et croyant. Hein.
Certes.
Aujourd'hui, on a l'impression que...
Non, dans ce cas-là, c'est moi. Ouais.
C'est l'État qui est laïque, c'est pas les gens.
C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais j'aimerais tellement qu'on recommence à détester l'inégalité des destins, à le combattre, à ce que les gens soient le plus heureux possible et le plus... qui moins en moins de pauvres, tout ça, enfin des trucs comme ça qui m'ont fait constituer, bâti. J'ai jamais été gauchiste, moi, par exemple. J'ai toujours été social-démocrate, c'est-à-dire que je pensais pas du tout qu'il fallait être violent ou je sais pas quoi, ou qu'il fallait rentrer dedans, faire le malin, etc. Non. J'ai passé ma vie à négocier. Hein. Bon, c'est vrai, c'est pas génial, hein, c'est pas glorieux, c'est pas... Mais c'est ça qu'on m'avait vaguement appris.
Mais c'est vrai qu'en 81, au moins au tout début, il y a une espèce de...
D'euphorie.
Rien, la cérémonie du Panthéon, quand même, il fallait oser, quoi. C'est vous qui l'avez filmé, vous le savez. Ça peut paraître un peu kitsch aussi, aujourd'hui. Oui. Hein.
Bien sûr, moi, quand je la revois, je me dis, mais je suis cinglé, quoi.
Oui. C'était cinglé. Président de la République entrant dans ce temple...
Ce temple républicain, dans les sous-sols de ce temple républicain, rencontre avec les grands morts de la République. Ouais. C'était étrange, quand même. C'était très étrange. C'était... puis, je vous dis, il s'est perdu, tout ça. Donc, c'était tellement bizarre. Et cette foule immense dehors. Mais immense.
Oui, il y avait une ferveur.
Plus que ça. Un enthousiasme, une émotion, une
vigueur. Vous vous souvenez de la chanson de Barbara, oui, Regarde.
Oui, comment c'était déjà
On va la passer, parce que ça aussi, on ne pourrait plus le faire aujourd'hui. Hein. Ça, c'est elle le chantant. À Pantin, en 81, vous n'êtes pas là, vous? Parce qu'il y a tout le Parti Socialiste à l'époque qui défile à Pantin pour entendre Barbara. Et elle chante cette chanson en hommage à François Mitterrand.
Frédéric Taddeï se balade avec Serge Moiti sur Europe 1.
Regarde, quelque chose a changé. L'air semble plus léger. C'est indéfinissable. Regarde, sous ce ciel déchiré, tout s'est ensoleillé. C'est indéfinissable. Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre demain. Les enfants, soleil au fond des yeux, le suivent de par deux, le cœur en amoureux. Regarde ces fanfares et musique, teintes amères et magiques, féerique. Regarde, moins chagrin, moins voûté, tous ils semblent danser, leur vie recommencer. Regarde, on pourrait encore y croire, il suffit de le vouloir, avant qu'il ne soit trop tard. Regarde, on en a tellement rêvé, que sur les murs bétonnés, poussent des fleurs de papier. Et l'homme, une rose à la main, étoile à son destin, continue son chemin. Seul, il est devenu des milliers qui marchent émerveillés dans la lumière éclatée. Regarde, on a envie de se parler, de s'aimer, de se toucher et de tout recommencer. Regarde, planté dans la grisaille, par-delà les murailles, c'est la fête retrouvée. Quelque chose a changé, l'air semble plus léger, c'est indéfinissable. Regarde au ciel de l'autre soir, une rose à nos mémoires dessine le mot espoir.
C'était Barbara en 1981 qui chantait Regarde.
Ouais, regarde.
En hommage à Mitterrand. Voilà, c'était une époque, quoi.
Ouais, je sais pas si on... Vous êtes tout jeune, cher Frédéric. Mais moi, non. Et je suis pas sûr de revoir ça. Et, non, mais sérieux, ça m'ennuie. Alors, on verra pour la petite fille. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin.
Pour votre petite fille, ouais.
Ouais, mais franchement, je sais pas si ça se reproduira. Ça se reproduira peut-être d'une autre façon. Là, j'ai fait des émissions ces temps-ci, là. C'est plus écolo que moi, tu meurs. Partout. Écolo. Bon, d'accord, je veux bien, mais il n'y a plus de clivage, il n'y a plus de différence.
Ah si, il y a quand même un clivage entre celles et ceux qui aiment Greta Thunberg et ceux qui ne la supportent pas.
Voilà, d'accord, ouais, tu parles, bon, d'accord.
Ah ben, ce sera quelque chose, Greta Thunberg, pour la génération de votre petite fille.
Ah oui, notre petite fille, oui. Ouais, elle a presque son âge. Mais c'est marrant, quoi. Moi, je sais pas. Enfin, on verra. J'aimerais bien revoir ça, cette ferveur populaire, ce truc comme ça, etc. J'aimerais bien refilmer une dernière fois des gens devant ma caméra. J'aimerais bien refilmer encore une fois le...
Vous voulez dire des gens heureux, des gens
parce heureux.
Que vous en filmez tout le temps des gens.
Oui, oui.
Encore aujourd'hui.
Non, c'est vrai. Mais j'aimerais bien filmer des gens très heureux.
J'aimerais bien. Ça me
touche, oui, ça changera infiniment. Un peu. Oui.
Ça me touche infiniment.
Vraiment. On se retrouve dans un instant avec Serge Moati.
Frédéric Taddeï, en balade avec Serge Moati sur Europe 1.
Nous sommes toujours devant le 10 rue de Solferino, l'ancien siège du Parti Socialiste. Vous l'avez filmé vide, cet endroit, Serge Moati. Vous le racontez dans votre livre.
Oui, hein. Oui. Ouais. Je suis rentré.
Avec des affiches.
Oui, des affiches des leaders avant, dans des couloirs littéralement vides. Et c'était absolument bouleversant. J'étais avec ma caméra, comme ça, géré dans les couloirs, où il s'était passé tellement de choses des tant d'années avant. Et je vous jure que c'est vrai, parole d'honneur. Quand je suis parti de là, il y a une cour là, vous voyez, là derrière nous, derrière un lieu historique, une adresse mythique, etc. Il y a une cour. Et je vous jure que c'est vrai, j'ai entendu la voix de Mitterrand.
Et vous êtes bien habité quand même. Hein.
Je suis très fidèle. Et je me suis mis à chialer. Vous voyez, ça paraît bizarre, hein, ça. Et je vous jure que j'ai jamais été un... Enfin bon, c'est pas... je suis pas un faillot. Croyez-le êtes... si vous voulez.
Non, mais non. Je dis, vous avez la larme...
Je vous dis, c'est un mélange de conjonctivité et de fidélité. Et je me suis dit vraiment...
Non mais je comprends, c'est évident,
bizarre, c'est une voix.
C'est un endroit émouvant, évidemment.
Une voix vous. Qui vous fait pleurer. C'est quand même étrange.
Bah non, c'est normal, non?
Ah bon, je sais pas.
Bah oui.
Et je suis reparti là, seul, là, au boulevard Saint-Germain, et puis rentré chez moi, là, que vous connaissez maintenant. Et c'était fini. Fin d'époque. C'était la fin de mon film, ma dernière campagne, que j'avais fait pendant la campagne de 2017. Et j'étais vachement, vachement triste.
Vous racontez dans Lettre à Anita que vous lisez toujours les nécrologies en premier dans le journal. Et que vous aimez prendre la parole aux enterrements et aux incinérations.
C'est pour la faire rire.
C'est pas vrai. Je vous imaginais bien, moi.
Oui, oui. Non, mais je raconte beaucoup de trucs pour la faire rire. Hein. Mais,
enfin, elle a 2 ans, elle ne peut pas le lire encore.
Non, mais quand elle sera plus grande, elle dira « Ce papy-là, il raconte n'importe quoi. »
Moi, je vous imaginais bien prendre la parole dans les
j'ai
enterrements.
Fait ça, j'ai fait ça. J'ai fait ça quelques fois. Je suis assez bon.
Oui, parce que vous êtes ému facilement.
Oui, je suis assez bon. Et souvent, les gens se demandent « Mais qui c'est ce mec qui prend la parole, comme ça ?» Et ils sont étonnés, ceux qui me reconnaissent, disent « Mais vous le connaissiez ?» Un peu, oui. C'est n'importe quoi. Mais vous savez, je suis capable de faire n'importe quoi. Et bon, alors, en tout cas, ce qu'il y a de vrai, 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 c'est que je lis toujours les journaux en commençant par la page nécrologie. Ouais. Et je me dis, ah voilà, tous ces gens que j'ai ratés, etc. Moi, je sais qu'il y aura à peine 3 lignes par un chroniqueur désœuvré quand je mourrai. Ouais. Mais j'aime bien lire ceux à qui j'ai échappé de leur vivant.
Vous dites, Oti, que sur les 3000 contacts qui figurent dans votre téléphone, vous ne pouvez en identifier que 300 ou 400.
Oui, bah, c'est vrai. Ouais. C'est fou. Et j'ose pas effacer le numéro des morts.
Il y a des morts, mais il y a aussi tous ceux dont vous vous souvenez pas.
Ah oui, ça, il y a un monde fou. Ouais. Mais les morts, en tout cas, j'ose pas les effacer. Parce que d'abord, je crois à l'esprit des morts. Et j'ose pas... je garde, on sait jamais, s'ils reviennent.
Moi, je me disais qu'avant, on avait... pas le numéro de téléphone de plein de gens dont on se souvenait et on était obligé d'aller les chercher dans le bottin. Et maintenant, en fait, on a plein de gens dans notre téléphone dont on se souvient pas tout court. On pourrait les appeler, on a le numéro, on sait qu'ils répondront. C'est pas comme autrefois dans les romans de Modiano, vous savez, quand on appelait le numéro et puis ça sonnait dans le vide. Là, non, ils répondraient tout de suite, mais on sait plus qui c'est.
Mais on sait pas qui c'est, que leur dire. Ouais. Que leur dire. Vous vous souvenez, on s'est vu.
Et vous savez même pas où, puisque vous savez pas qui c'est.
Les anciens copains de lycée, machin comme ça, etc.
Et là, encore cela, vous en souvenez.
Ouais, enfin.
Mais il y aura peut-être toute une littérature à la Modiano, un jour, sur les numéros de téléphone dont on ne sait plus.
Vous avez lu Dora Bruder ?
Oui, bien sûr.
C'est génial.
Oui.
C'est génial. Je rêve d'en faire un film de ça,
ah bon ?
Dora Bruder, ouais. Ah ouais, c'est formidable. C'est formidable. Parce qu'il lit juste une petite annonce qu'elle a disparu dans Paris, Dora Bruder. Vous vous souvenez ?
Oui, bien sûr.
Et il ne sait pas qui c'est. Il va aller sur les traces de Dora Bruder et il apprendra qu'elle est morte en camp de concentration, la pauvre chou. Pardon. Et voilà, ça m'émeut vachement d'y penser, quoi. Je peux pas oublier que je suis le fils d'un déporté. Je peux pas l'oublier. Pardon, hein.
Non, je vous comprends.
Mais non, mais ça fait chier. Une fois, j'étais au mémorial de la Shoah et j'ai fait des films pour eux sur des paroles de survivants, des trucs comme ça, dont Simone Veil. Donc... Et bon, j'étais là un soir et je faisais une sorte de causerie et je suis parti parce que j'en avais un peu marre, enfin bon, ça. Et je marche dans les couloirs déserts et j'entends une voix. Je dis, mais je connais cette voix. Tu parles, c'était moi. J'interviewais les rares survivants.
Et ils étaient en train de diffuser le film ?
Oui, c'est des films, des petits films, vous savez. On entend leur voix qui passe dans les trucs vides, comme ça, dans des télés. Et ça m'avait littéralement bouleversé. Mon père, j'ai pas su au départ qu'il avait été en camp. C'est ce jour-là qu'une petite fille nommée Monique m'a dit « Je peux plus te voir ». J'étais follement amoureux d'elle, j'avais 7-8 ans. Et elle me dit « Je peux plus te voir ». Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que t'as tué Dieu. Ah ! Je me souvenais absolument pas de ce crime que j'aurais commis, hein, honnêtement.
C'était en Tunisie, ça ?
Ouais, ouais. J'avais pas de trace de ça. Hein ? Et elle me dit, mais oui, tous les juifs ont tué Dieu. Alors je découvre deux trucs, que j'avais tué Dieu et que j'étais juif. C'est quand même pas mal. Dans le même moment, et que Monique allait me quitter. C'est quand même très ennuyeux. Parce que j'étais déjà hétéro et très ardent. Et donc, je rentre, je traverse la rue, je vois mon père qui écrivait son édito pour son journal. Je lui dis, papa, c'est vrai qu'on a tué Dieu ? Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes, là ? Qui t'a raconté ça ? Je dis, bah, c'est Monique, elle m'a dit qu'on avait tué Dieu, etc. Lui non plus, il n'avait pas l'air de se souvenir de ce crime, mais il m'a dit, elle est toute bête, cette fille-là. Elle est toute bête, laisse-la, t'occupe pas de ça. Et je lui dis, mais il y a des gens qui ne nous aiment pas parce qu'on a tué Dieu ? Il me dit, ouais, mais tu vas voir, tu sais, il y en a d'encore plus méchants que Monique, tu sais. Moi, ils m'ont mis dans un camp de prisonniers. Ah bon, papa, pourquoi ? Qu'est-ce que t'avais fait ? T'avais tué Dieu, toi aussi ? Non, mais c'était terrible. Je te raconterai un jour. Je te raconterai un jour. Ils ont mis beaucoup de juifs dans des camps, comme ça, etc. Et mon père me dit, allez, arrête maintenant. On verra plus tard, je te raconterai. Il m'a jamais raconté, il est mort avant. Mais j'ai été bouleversé par ça. Être juif, c'est porter aussi ce poids-là. C'est terrible, vous savez. Ça a l'air comme ça.
Vous ne croyez pas qu'on le porte aussi quand on n'est pas juif ?
Moins. Moins. Là, c'est dans nos trucs, dans nos gènes, dans nos machins. C'est pour ça que je raconte ça à Anita aussi. Elle a une autre partie de la famille qui n'est pas juive. Tant mieux, d'une certaine façon. Mais moi, je suis juif entièrement. Et j'aurais pas dû naître.
Ah, si.
Non ?
Puisqu'il est revenu.
Non, si, oui, mais il aurait pu ne pas revenir.
Oui, mais vous savez bien, on peut aussi être...
Non, tout ça relève du miracle. Vous savez, ceux qui sont revenus, pas revenus, on ne sait pas. Et c'est pas fini, vous savez, cette affaire.
Merci, Serge, de nous avoir emmené en balade avec vous.
Oui, c'est gai. C'est gai, merci. Merci à vous, vraiment, on s'est franchement marré. Le mec, je l'ai plombé pour le ad vitam aeternam. Pardon, Frédéric. Pardon, Frédéric, mais aussi, vous m'amenez là, écoutez.
C'est vous qui m'avez amené.
Non, c'est vous.
Merci, Serge, de nous avoir emmené en balade avec vous. Je rappelle...
de cimetière en ancien siège du
Parti Socialiste. Je rappelle que vous venez de publier Lettre à Anita.
Mais c'est un livre dont on se marre un peu. Hein,
oui, je me suis bien marré en disant.
Ah bon, quand même.
C'est
bon.
Paru chez Fayard. On remercie les deux magots. On vous remercie, vous, de nous avoir suivis. Passez un très bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain pour une autre balade.
Merci beaucoup, Frédéric.